RCF.
Bonjour, Monseigneur Laurent Ulrich.
Bonjour, Élise.
Avec vous, cette semaine, on va parler évidemment de ce qui fait l'actualité, de ces restrictions sanitaires et les incidences que ça a sur l'Église. On parlera aussi de la place des femmes qui demandent leur part du gâteau aussi dans l'Église. Un mot pour commencer sur ce contexte sanitaire compliqué pour tous les Français, mais aussi pour les catholiques. Quelle incidence ça a concrètement sur la vie de l'Église lilloise ?
Alors, le sentiment que tout le monde n'est pas revenu dans les églises, voilà. À la fois, il y a des raisons que l'on peut comprendre, des personnes qui se sentent plus fragiles et qui disent c'est pas la peine d'aller se mettre au milieu d'un risque trop important pour nous, et puis un risque qu'on risque de transmettre aussi à d'autres, donc soyons prudents. Mais peut-être que dans certains cas, il y a eu aussi des personnes qui, étaient pratiquants habituels à l'église et puis se disent pendant des semaines on n'a pas été à l'église et finalement on a continué de vivre, on a continué de croire. Bon.
C'est ce qu'on appelle les décrocheurs aussi chrétiens, les décrocheurs scolaires. Il faut aussi aller récupérer ces chrétiens qui ont décroché.
Alors, je ne sais pas s'il faut les raccrocher, s'ils sont des décrocheurs. Je n'avais pas pensé à ce mot, mais je crois qu'il faut leur dire vous avez toujours votre place dans la communauté, dans l'assemblée chrétienne. Et l'assemblée chrétienne, elle est faite à la fois pour vous, et puis elle est faite aussi pour être un témoignage. Le témoignage des chrétiens n'est jamais un témoignage solitaire, c'est-à-dire c'est pas simplement une personne dont on peut avoir la tendance à ça, se dire le témoignage des chrétiens c'est un témoignage de personnes exceptionnelles. Non, le témoignage des chrétiens c'est le témoignage de l'assemblée des croyants qui disent à travers l'ordinaire de leur vie et même la modestie de leur vie très souvent leur attachement au Seigneur et leur certitude que le Seigneur leur donne la force d'affronter les difficultés dans l'existence par son amour. Voilà. Eh bien, aller à l'assemblée des chrétiens, pour la messe ou pour d'autres occasions, c'est aller chercher auprès du Seigneur et ensemble cette assurance, cette attestation qu'il est bien là avec nous et qu'il est la source de toute vie et de tout amour. C'est pour ça que nous y allons, c'est parce que nous croyons qu'il est la source. Alors, bien sûr, on peut se dire, la source, elle coule en moi, donc ça suffit. Mais je crois qu'on a besoin de... Vous savez, c'est une image de marcheur, de montagnard. On remonte vers la source, voilà. On a besoin de remonter vers la source. Alors, ça demande un effort, d'une certaine façon. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont parvenus pour cela. Il y a des gens qui reviendront peut-être peu à peu. Mais j'ai découvert aussi qu'il y a des gens qui sont venus après une très longue interruption. C'est-à-dire, ils ont été touchés par ce qui s'est fait dans l'Église et grâce à l'Église pendant les semaines du confinement et du retour au mois de mai-juin.
Puis il y a aussi l'aspect plus pratico-pratique de l'Église avec ses restrictions sanitaires, plus de mariages, plus de baptêmes, ou en comité très très restreint. Ça a une incidence évidemment, j'imagine, sur les finances du diocèse. Où en est le diocèse à la suite de cette reprise difficile d'une vie d'assemblée chrétienne ?
Alors, faut distinguer dans les ressources de l'Église un peu des ressources qui sont des ressources annuelles, c'est ce qu'on appelle le denier de l'Église, la sollicitation faite aux chrétiens de participer volontairement au financement de l'Église par un don annuel qui est une vraie contribution extrêmement nécessaire et en général substantielle, même s'il y a des personnes qui donnent des sommes très petites, mais en rapport avec leur capacité financière. Hein. Donc on ne regarde pas ça, mais il y a aussi des gens qui donnent beaucoup. Voilà. Et donc cela, ce denier de l'Église, à la date où nous sommes, a retrouvé son niveau normal de la date où nous sommes. Voilà. Parce que après le confinement, des gens se sont bien rendus compte qu'il fallait... on avait été comme un peu paralysés pendant le confinement sur ce sujet, donc on ne l'a pas fait. Il y a des gens qui n'ont pas fait leur chèque, qui n'ont pas fait leur don habituel. Bon. Mais ça s'est compensé. Donc, parce qu'on a relancé une campagne, mais aussi parce que les gens qui pensent à l'Église, ils pensent que ça ressemble à leurs comptes familiaux et qui se disent, quand il y a un trou, qu'est-ce qu'on fait pour le combler ? Et donc, c'est assez naturel que beaucoup aient pensé que l'Église avait été perdante. Il y a une deuxième chose, c'est les quêtes dans les églises, les mariages qui ne se sont pas célébrés, les baptêmes qui ne se sont pas célébrés. Alors, pour les quêtes dans les églises, évidemment, il y a bien des gens qui ont fait un effort aussi quand ils sont revenus, en disant « j'ai pas été à la messe pendant 10 semaines de suite, et donc ça fait tant ». Et ils ont mis l'équivalent de ce qu'ils auraient mis, semaine après semaine. Mais il y en a qui ne l'ont pas fait, donc il y a probablement un manque, mais je ne peux pas le calculer parce que nous n'avons pas encore les retours. On a ça en fin d'année, les retours des quêtes dans les paroisses. Quant au baptême et au mariage, ceux qui n'ont pas été célébrés cette année, ceux qui n'ont pas été reportés de avril-mai à octobre, parce qu'il y en a, il y a toutes les chances pour qu'ils soient reportés en 2021, donc probablement il y aura plus de mariages à célébrer en 2021, et donc on peut imaginer que d'une année sur l'autre, voilà. Donc ça va se rétablir. La situation n'est pas bien bonne de ce point de vue-là, même si elle n'est pas absolument, c'est pas une alarme. Dans le diocèse de Lille, en tout cas, je suis bien sûr que dans quelques autres diocèses plus petits, avec moins de capacité qu'il n'y en a dans ce diocèse-ci, la situation est beaucoup plus tendue. Mais pour être honnête, dans le diocèse de Lille, je ne dis pas que tout va bien. Il y a forcément du manque à gagner, mais ça n'est pas encore une situation dramatique.
Monseigneur Ulrich, une situation qui pourrait inquiéter en tout cas la gente masculine de l'Église, ce sont ces nouvelles revendications de femmes dont on entend parler un peu partout. Il y a ce collectif de femmes, toutes apôtres, qui demande symboliquement d'accéder à des postes réservés depuis longtemps au clergé, donc masculin. On entend de plus en plus ces femmes dans l'Église manifester cette envie, ce besoin d'accéder à d'autres postes. Qu'est-ce que vous en pensez, Mgr Ulrich ?
Je pense que la situation sociale des femmes dans la société, cette situation des femmes dans la société a beaucoup évolué dans le monde depuis un siècle. Voilà. Et elle a évolué probablement de façon assez mondialisée. Il y a probablement des îlots dans lesquels l'évolution ne s'est pas faite, des îlots de pays plutôt fermés. Mais d'une façon générale, on voit dans tous les pays du monde des femmes accéder à des responsabilités importantes. Et donc, ça n'est pas étonnant que ça ait... il peut y avoir un déficit, hein, je comprends bien, mais il y a... un peu partout dans le monde, des femmes qui accèdent à des hauts postes de responsabilité politique et économique, c'est vrai, même si ça n'est pas équilibré en nombre, ça je l'entends. Ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur la vie de l'Église, c'est ce qui est tout à fait naturel, qu'il y ait quelque chose comme une demande, une revendication, dans certains cas, quand c'est plus exprimé de façon plus violente, enfin plus pressante en tout cas. Et donc j'entends bien cette revendication. Et je crois que nous avons, nous, dans l'Église catholique, à réfléchir. Alors, moi je prends le cadre de ce que le pape François propose, je l'ai fait dans la lettre pastorale que j'ai écrite au mois de mars et qui s'est diffusée. C'est ce cadre-là, c'est-à-dire, il est vrai que dans l'Église catholique, depuis des siècles, la situation de prêtre est réservée aux hommes. Voilà. Mais ce qui peut être changé dans la vie de l'Église, et sans dommage, si on le veut, même si ça soulèvera, comme vous disiez tout à l'heure, des protestations masculines possibles, c'est d'attribuer des postes de responsabilité, enfin de faire en sorte que des postes de responsabilité qui ne sont pas forcément liés au fait d'être prêtre. Voilà.
Donc le clergé, pour vous, ne doit pas être accessible aux femmes.
Alors, je n'ai pas dit cela. Le pape a relancé, et moi je suis plutôt pour, a relancé l'idée que le diaconat aurait vocation peut-être à être ouvert aux femmes. Donc un degré de l'ordination pourrait être... Alors, je le dis parce que je pense depuis longtemps que c'est une hypothèse tout à fait plausible. Je suis bien obligé d'attendre que le pape ou un concile décide que cela devienne possible. Ce qui est clair, c'est que le pape François a relancé de lui-même ce sujet, c'est-à-dire Il n'a pas fait la sourde oreille, il a même devancé, d'une certaine façon, dans les réflexions, en disant « je voudrais quand même bien voir clair sur le dossier théologique de la chose ». Et donc, en lançant de lui-même ce groupe de travail, il savait qu'il enclenchait un mouvement. Je veux dire, le pape est tout sauf un naïf. Il sait bien que quand il enclenche un mouvement, il y a des choses qui vont se passer ensuite. Et donc, on peut attendre, espérer, je le souhaite, que le diaconat soit porté comme un ordre pour des hommes et pour des femmes. Voilà.
Donc, des femmes qui pourraient célébrer des baptêmes et des mariages, oui. Pour vous, ce serait quelque chose d'envisageable?
Je le crois juste et je le crois tout à fait intéressant. Alors, il y a une autre hypothèse. Le pape a annoncé qu'il convoquerait un synode romain sur la question des synodes, sur la question donc de la vie de l'Église en tant qu'elle est, elle s'exprime à travers des assemblées délibératives ou consultatives, ça dépend des fois, mais que le pape prendra en compte ce qui se dit dans des assemblées. Et on peut imaginer que le pape décide pour ce synode que des femmes non seulement y seront présentes, ce qui est déjà le cas, mais auront voix au chapitre et possibilité de s'exprimer comme participantes du synode. On peut imaginer le pape, jusqu'à présent les synodes du mois d'octobre, puisque c'est souvent le mois d'octobre, qui se déroulent tous les deux ou trois ans à Rome, sont des synodes d'évêques. Mais il n'est pas exclu que le pape dise ce sera dorénavant, ou au moins pour cette fois-là, enfin, un synode dans lequel il y aura des évêques, mais aussi d'autres personnes engagées dans l'Église qui ne seront pas des clercs, qui ne seront pas des prêtres, qui ne seront pas des évêques, et qui peuvent être des hommes et des femmes. Voilà.
Ce qu'on appelle les pères synodaux, dont seul le vote est validé, et pourrait y avoir des mères synodales.
Je ne sais pas comment on les appellera, mais des membres du synode. Nous l'avons fait ici, beaucoup de diocèses qui ont fait des synodes ont fait cela, et nous l'avons fait lors du concile provincial de l'île Arras-Cambrai, puisque j'avais demandé les règles du code de droit canonique était assez restrictive sur le nombre des participants à un synode provincial. Et donc, j'avais demandé au Saint-Père une dérogation en disant « je voudrais porter le nombre de l'Assemblée à environ 200 personnes voilà. ». Alors que les règles auraient constitué une Assemblée de 60 ou 80 personnes dans lesquelles plus des trois quarts auraient été des prêtres. Voilà. Et donc j'ai dit « je souhaiterais bien qu'on ne fasse pas cela ». Et qu'on puisse avoir une assemblée d'environ 200 personnes, hommes et femmes. Mais le pape m'avait dit oui, et il avait accepté que ce synode se tienne dans ces conditions, et que, par conséquent, les votes soient acquis par la participation de tous les membres du synode, hommes et femmes. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu là quelque chose d'important.
Anne Soupa, la théologienne, a jeté un pavé dans la mare en postulant à la succession de Mgr Barbarin à Lyon. Une femme évêque, qu'est-ce que vous en penseriez?
Mais je crois que la candidature de Anne Soupa était faite pour être une provocation. Et donc, si c'était une provocation, ça n'était pas en attente d'un résultat à la hauteur de la provocation. Et par conséquent, je ne me représente pas pour l'instant la situation. Je vois bien que dans d'autres églises chrétiennes, ça existe. Mais dans l'Église catholique, je ne me représente pas cette situation. Et peut-être est-ce trop tôt pour l'imaginer, peut-être est-ce tout à fait hors de propos. Je n'ai pas de qualité suffisante pour le dire actuellement. Moi, je pense qu'il faut suivre le chemin que le pape nous invite à suivre, c'est-à-dire des diacres femmes, pourquoi pas, et des responsables dans l'Église qui exercent une vraie responsabilité, j'allais dire, de nature politique à l'intérieur de l'Église. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, participer à un synode, être responsable d'un grand service dans l'Église, pourquoi pas? Voilà.
Merci, Mgr Laurent Ulrich.